Des révocations et des démissions cascades au sein de la majorité présidentielle, famille politique du président de la République. C'est la conséquence de la troisième lettre ouverte du groupe de sept partis politiques à l'autorité morale de la MP, dans laquelle le groupe demande à Joseph Kabila de garantir le respect absolu de la Constitution et favoriser l'alternance politique pacifique. Nous en parlons dans moins d'un quart d'heure. Nous sommes au mois de septembre et c'est le mois de la rentrée, cette fois-ci dans les deux chambres du Parlement. Bien que budgétaire, cette session ordinaire devra se pencher aussi sur le processus électoral, à en croire les présidents des deux chambres du Parlement. Voilà les deux thèmes de la tribune de la presse de ce vendredi 17 septembre 2015. Et les invités dans ce studio sont Marcel Ngoye, éditeur responsable du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Marcel, bonsoir.
Bonsoir.
Joël Kadidanga, éditeur responsable du journal Impact News, un autre quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Joël Kadidanga, bonsoir.
Bonsoir, cher confrère. Un hebdomadaire.
Un hebdomadaire, merci de m'avoir corrigé. Solange Louchikou-Simire, éditrice du journal Le Souverain, paraissant à Bukavu, au sud Kivu. Elle est aussi vice-présidente de l'UNPC. Solange, bonsoir.
Bonsoir.
C'est Berry Fonkaloucha au téléphone et au micro. Et c'est justement la rentrée aussi de Berry Fonkaloucha qui est derrière ce micro. Et partout où vous nous suivez sur la fréquence de la paix, bienvenue à tous. Et pour commencer, nous allons voir comment la presse écrite a analysé l'actualité de cette semaine avec vous, Guy Maté, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. Retombé de la lettre ouverte adressée au chef de l'État par les sept partis de la majorité présidentielle, Pierre Lumbi et Olivier Kamita, tous révoqués de leurs fonctions, Mwando Simba démissionne. Le Phare parle d'une guerre ouverte chez les kabilistes. Comme on l'a présenté et puis le journal, le bureau politique de la majorité présidentielle s'est réuni en urgence mercredi 16 septembre en vue d'examiner la situation créée en son sein par la lettre adressée en date du 14 septembre à son autorité morale Joseph Kabila par un groupe des membres réunis au sein du G7. Le communiqué publié à la suite de ces bureaux politiques et repris par les mêmes journaux mentionne que les auteurs du mémorandum au chef de l'État se sont auto-exclus de la majorité présidentielle. À la suite de cette exclusion, le chef de l'État a publié des ordonnances révoquant le ministre du Plan Olivier Kamitatou et son conseiller spécial en matière de sécurité Pierre Lumbi. Les partis de ces deux personnalités sont signataires de la lettre ouverte adressée à Joseph Kabila. Les potentiels soulignent que Pierre Lumbi et Olivier Kamitatou sont les premières victimes de la lutte pour le respect de la Constitution. Selon le journal, le G7 écrit une nouvelle page de l'histoire politique de la RDC. À trois reprises, les réformateurs, comme ils se définissent, ont saisi par écrit les chefs de l'État en des termes sans équivoque sur le respect de la Constitution. La Prospérité relaye que le bureau politique du MSR, élargi aux députés et sénateurs, s'est aussi penché sur la décision de révocation de Pierre Lumbi, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Sans trop de commentaires, note le journal, les cadres de cette formation politique réaffirment leur soutien à Pierre Lumbi. Ils disent maintenir leur confiance dans la lutte que ce dernier mène depuis plusieurs décennies pour la fondation et l'émergence d'un État des droits au Congo. Au sujet de la rentrée parlementaire, la référence plus se renseigne que la rentrée parlementaire qui s'est déroulée mardi dernier a été hautement politique. Dans leur discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat ont mis l'accent sur les questions politiques de l'heure. Mina couscrite la gouvernance, Kengo livre son schéma électoral, c'est le titre qui barre la une de la référence plus. Forum des As se renchérit que dans le cadre des travaux parlementaires en vue de l'adoption du budget pour l'exercice 2016, le président de la Chambre basse du Parlement, Obem Inaku, plaide pour les sociales en se faisant l'avocat d'une meilleure redistribution de la croissance au profit de l'ensemble du peuple congolais. Par ailleurs, le journal rapporte que, pour sa part, le président de la Chambre haute du Parlement estime que, compte tenu des difficultés financières dont se plaint le gouvernement pour l'organisation des élections, il convient de faire des choix rationnels basés sur les priorités du pays. Sous un autre chapitre, un commando perturbe les meetings réussis de l'opposition, titre la tempête des tropiques. Alors que la manifestation pacifique s'est déroulée en toute tranquillité, un incivique pratiquant les arts martiaux tristement célèbres a semé la confusion, obligeant la foule à se disperser sous l'œil indifférent des éléments de la police nationale. Ces acolytes auraient été lynchés par la population en colère, rapporte le journal qui souligne que dans la confusion ainsi créée, plusieurs leaders politiques de l'opposition ont tenter chacun à sa manière de sauver sa peau. Les principaux messages lancés aux Congolais à la place Sainte-Thérèse en Djili est d'empêcher de toucher à la Constitution pour permettre à Joseph Kabila de briguer un troisième mandat. Les 161 personnalités de l'opposition et de la société civile qui ont formé la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition politique congolaise exigent par ailleurs l'enrôlement de tous les électeurs avant les élections prévues d'ici 2016. Merci et c'est la fin de cette revue de presse.
Merci Guy Maté et nous allons commenter d'abord les autres sujets qui ont fait l'actualité. Vous avez suivi qu'il y a eu ce meeting populaire de l'opposition, chers confrères, l'opposition politique qui était à la place Sainte-Thérèse ici à Kinshasa, excepté l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. Tous les grands partis politiques de l'opposition étaient présents à cette manifestation et les leaders de l'opposition ont réaffirmé à l'unanimité leur détermination à faire respecter la constitution congolaise en ce qui est du mandat du chef de l'État. Marcel Ngoï, quelle lecture vous faites de ce meeting?
Oui, ce meeting est une des manifestations de la liberté. La liberté, parce qu'il n'y avait pas de liberté, on ne pouvait pas autoriser que ce meeting ait lieu. Mais je déplore les dérapages qui s'en est suivi. Qu'un commando, qu'un élément forgé, je ne sais pas dans quel milieu, puisse venir perturber la tenue des meetings pourtant autorisés, c'est des choses à déplorer. Mais ce qui est important dans la démarche, c'est que les opposants se sont exprimés clairement pour le respect absolu de la Constitution,
oui.
Et pour le respect du nombre de mandats. Et donc là, c'est sans équivoque et ça permet quand même à ce peuple, à cette population qui a suivi, à ces combattants qui ont suivi, de pouvoir être fixés sur le vue de leur leader. Même si ces vues ne sont pas forcément partagées par les tenants de la ligne du glissement.
Joël Kadé, l'opposition, vous pensez que l'opposition était sur la bonne voie sans le premier parti d'opposition, j'ai cité l'UDPS?
Non, je crois que nous sommes dans un système multipartiste et en conséquence, tous les partis politiques ne peuvent pas danser au même rythme. Il faut savoir que l'UDPS pouvait ne pas être là. Le message est passé. L'essentiel, c'était que le message passe. Bien que nous déplorions ces stratagèmes mis en place depuis 2011 d'habiller les membres de l'opposition aux effigies des leaders de partis de l'opposition, notamment Tshisekedi, pour créer des troubles et responsabiliser ces partis politiques pour peut-être prendre une grave décision de dire que désormais il n'y aura plus de manifestations de ce genre. C'est vraiment cynique, c'est vraiment diabolique. Je crois qu'il y a lieu d'éviter de croire qu'on peut toujours marcher sur les cadavres des Congolais pour accéder à certains avantages. Cela étant, je voudrais quand même en appeler vraiment à la responsabilité du chef de l'État qui avait promis de s'impliquer un peu pour la liberté d'expression. Et il y a notre confrère Daniel Saf qui croupit encore à la prison de Matadi. Il a été condamné pour 2 ans de prison ferme pour outrage au chef de l'État. Comme lui-même n'avait mandaté personne, il avait promis au patron de presse, dont mon confrère ici à côté, qu'il va s'impliquer. En tout cas, nous attendons parce que notre confrère passe des moments très très difficiles.
Merci. Alors, selon Jean-Louchikou, vous êtes à Bukavu. Comment, au niveau de Bukavu, vous avez accueilli ce meeting de l'opposition tenu à Kinshasa?
Bon, tout comme la majorité présidentielle a ses adeptes, l'opposition aussi a ses adeptes. Et chaque fois, on peut toujours poser la question de savoir pourquoi, quand c'est un meeting de l'opposition, il y a toujours des incidents malheureux qui interviennent. Et c'est là, pour nous qui analysons, je pense que c'est un signal fort qui nous fait comprendre que nous sommes loin vraiment du respect de la liberté d'expression. Parce que lorsqu'une opposition s'exprime, il faudrait qu'on la laisse s'exprimer et qu'on laisse les choses se passer telles qu'elles ont été prévues. Mais lorsque chaque fois quand l'opposition se regroupe, se réunit quelque part, il y a des incidents, cela signifie que notre jeune démocratie est totalement fragilisée.
D'accord. Alors, puisque vous avez la parole, rapidement, qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous à Bukavu?
Vraiment, la vraie actualité chez nous, c'est cet attentat manqué, heureusement pour nous, de l'assassinat de Monseigneur l'archevêque de Bukavu cette semaine, lorsque un bandit s'est introduit dans l'évêché de Bukavu la nuit, vers minuit. Il s'est introduit là-dedans avec un couteau Heureusement qu'il s'est trompé de chambre, il est allé tomber dans la salle de bain du vicaire général. Et lorsque ce dernier l'a aperçu, il a alerté tout le monde. Et donc c'est avec un couteau que Mgr Maroi devait périr comme ses prédécesseurs.
Merci beaucoup pour cette triste nouvelle. Mais, et l'autre actualité de la semaine, c'est le retrait de l'UDPS. Les pourparlers devront aboutir au dialogue. L'annonce de l'arrêt des pourparlers a été faite à travers un communiqué signé par le président de l'UDPS lui-même, Étienne Tshisekedi, depuis Bruxelles, où il se trouve en convalescence. Très rapidement, Joël Kadir, est-ce que vous êtes surpris par la décision de l'UDPS?
Je n'étais pas surpris par la décision de l'UDPS dans la mesure où l'organisation du dialogue tant voulu par la majorité présidentielle et tant cherchée à l'époque par l'opposition semble avoir un agenda caché, et cet agenda caché peut être bien déterminé par les discours de Kinke Mulumba, Kabila désire, nous n'avons pas de stock de compétences et en conséquence, il faudrait que vous acceptiez. Et je pense qu'au finish, l'UDPS s'est rendu compte de ses objectifs, comme Mgr Mosengo l'avait demandé, qu'on définisse les objectifs du dialogue, et s'étant rendu compte qu'il y a anguille sous roche, c'est de leur responsabilité de se retirer, étant entendu que le thème de référence, selon eux, n'avait pas été rencontré.
Très bien. Alors, Mgr, est-ce que vous comprenez la déception du PPRD, le parti présidentiel?
Oui, le PPRD est médusé, parce que, en fait, c'est une grande surprise. Il y a eu des tractations à Bruxelles, des tractations en Italie, et on en a fini avec des tractations d'Ibiza et de Venise en Espagne. On misait justement sur un accord secret avec l'UDPS pour pouvoir déclencher le processus du dialogue proposé. Donc nous pensons que cette stratégie a montré ses limites. Il faudra s'y raviser pour carrément convoquer le dialogue avec ceux qui acceptent d'aller au dialogue.
D'accord. Alors, Solange Louchikou, très rapidement, quelle est votre analyse sur la position de l'UDPS?
Moi, je pense que c'est un parti qui perd de plus en plus de popularité. Et ce qui vient d'arriver aujourd'hui prouve à suffisance que c'est un parti auquel beaucoup de gens ne devraient plus croire, étant donné que c'est un parti qui s'est permis de négocier en dehors du pays, sacrifier le pays pour aller négocier ailleurs et revenir au pays pour dire autre chose. C'est un peu un rôle des girouettes que l'UDPS joue, et nous pensons que c'est pas de la crédibilité, c'est pas crédible pour un acteur politique de dire ceci à 7h et à 8h de changer, à 9h de changer encore des paroles. Nous voulons la constance.
Merci.
Je venais de parler avec quelques faiseurs d'opinion de Bukavu et qui disaient en tout cas l'UDPS n'a plus de raison de mobiliser des gens parce qu'elle a montré ses limites.
D'accord, merci beaucoup. C'est avec votre analyse que nous allons entrer dans notre premier thème de la soirée qui concerne le dossier du groupe des 7. Alors le G7 entendait par là les 7 formations politiques signataires de la lettre ouverte au président de la République qui est devenue désormais une plateforme politique. Et c'est Charles Mwandosimba qui a fait cette déclaration jeudi à Kinshasa lors d'un point de presse de cette plateforme. Charles Mwando a précisé que le G7 est déterminé à continuer à défendre les valeurs fondamentales, notamment le respect de la Constitution. À son tour, Olivier Kamitatou a appelé les membres de leurs différents partis à tirer les conséquences de cette prise de position. Selon lui, ils doivent le faire en âme et conscience, et les précisions nous sont données ici par Mimi Ngumba Mulongo.
Le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président de l'UNADEF a démissionné ce jeudi du bureau de la Chambre basse. Son cabinet était pourtant ouvert et fonctionnel avant midi de ce jeudi, alors que le concerné, Charles Mwandosimba, n'a pas rejoint le palais du peuple. De son côté, Norbert Ezadri, rapporteur de la Chambre basse et cadre du parti politique MSR, était présent à son poste de travail avec le personnel de son cabinet. Visiblement, la question de la Chambre basse a aussi fonctionné normalement, malgré l'absence à Kinshasa d'Élisée Minembwe, questeur de l'Assemblée nationale et cadre de l'Arc d'Olivier Kamitatou. Les députés nationaux, eux, étaient à peine visibles dans les couloirs de l'hémicycle, la plénière n'étant pas programmée ce jeudi. Notez par ailleurs que pour le Sénat, son bureau compte 2 membres dont les partis sont concernés par l'exclusion de la majorité présidentielle, à savoir Mario-Philippe Lossembe et Modeste Moutinga. Leur décision reste attendue.
Merci Mimi Ngumba. Et la tribune de presse ce soir reçoit dans ce studio Marcel Ngoï, éditeur responsable du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Joël Kadedanga, éditeur responsable du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît aussi à Kinshasa. Et Solange Louchikou, éditrice du journal Le Souverain, qui paraît à Bukavu au sud de Kivu. Alors Marcel Ngoï, est-ce que vous comprenez ce revirement politique du G7?
Le G7 a posé un problème de fond. Un problème de conviction, un problème d'idéal. Moi, je crois que le G7 est arrivé à s'exprimer dans la rue parce que dans la maison, c'est comme quand vous avez des enfants. Si les enfants ne s'expriment pas bien dans la maison, ils vont s'exprimer en dehors de la maison. C'est ce que le G7 a fait. C'est la troisième lettre du genre. Cette lettre a de traits de ressemblance avec celle de 13 parlementaires sous la dictature de Mobutu. En 1982. Et vous comprendrez que l'histoire de notre pays est en train
de se répéter.
Pas de bégayer, mais de se répéter. Et je pense que le problème de fond, même quand il y a des réactions de la majorité, que ce soit le premier communiqué dans lequel la majorité a demandé à ses aux membres du G7 de tirer toutes les conséquences, que ce soit le communiqué d'hier qui demande aux membres de ces différents partis rester encore, qui sont encore en fonction, de pouvoir soit disqualifier leurs autorités morales, leurs chefs, soit démissionner. Je crois que dans ces deux communiqués, je n'ai pas vu une réponse qui concerne les problèmes de fond. Il y a bien sûr à redire sur la forme. La forme, on considère que le G7 aurait commis le péché de d'avoir brûlé la politesse au chef de l'État en ce qui concerne le ton utilisé, les mots, les expressions utilisées.
En fait, on a demandé au G7 de pouvoir s'adresser au bureau du Parlement, au bureau de la majorité, au lieu de s'adresser directement au président de la République. Oui. C'est ça la forme qui a été reprochée au G7.
Oui, le G7, je disais tout à l'heure, aurait brûlé la politesse. Le G7 aurait touché au symbole la sacralité du chef. En poussant son outrecuidance jusqu'à pouvoir secouer, toucher au problème du troisième mandat, au problème de la constitution.
Mais c'est ça qui pose finalement le problème, qui dérange un peu même le Congolais en général.
Oui, mais et aussi, non seulement ça, les G7 étaient considérés ici comme un groupe qui dénonce la stratégie. Parce que quand vous lisez la lettre du G7, le G7 dit que la stratégie actuelle, celle du glissement, celle de l'enlisement, la stratégie du pourrissement de la situation, et participe à un jeu, à une stratégie qu'eux considèrent comme étant suicidaire. Parce que c'est une stratégie qui pourrait faire en sorte qu'on cherche à se maintenir, par le fait même de n'avoir pas organisé les élections, qu'on se maintienne aux affaires.
D'accord. Alors, Joël Kadé, est-ce que vous avez compris cette volte-face du G7?
Il n'y a pas un problème de volte-face.
En fait, ils sont dans le même camp, mais après, ils ont essayé de dire à la place publique ce qui n'a pas été dit.
Le chef de l'État a dit ceci, qu'il tend sa main à tout le monde pour contribuer à la construction de la République démocratique du Congo. On ne peut construire la RDC non seulement avec de l'argent, mais avec les idées. Mais si ces idées viennent dans son propre camp, pourquoi les refuser? Pourquoi ne pas demander aux enfants d'une même famille, qui peuvent avoir les points de vue divergents, pour s'entendre, se mettre d'abord autour d'une seule table, parler, échanger sur ce qui ne les arrange pas au sein d'abord de la famille politique. C'est là que je me dis, frère, que je ne comprends pas. Et c'est là que je suis appelé vraiment à être convaincu qu'il n'y a pas la volonté du dialogue, parce que le dialogue devrait, l'esprit du dialogue devrait caractériser d'abord la famille politique du chef de l'État. En son sein, que l'on comprenne, parce que mon confrère tantôt venait de le dire, ce n'est pas la première fois que le G7 lève les tons.
C'est la troisième fois.
C'est la troisième
qui conclut,
fois.
Qui amène même l'auto-exclusion.
On ne peut pas les entendre. Pourquoi on ne peut pas chercher à avoir une même vision, parce qu'on est dans une même famille politique. Mais on refuse de dialoguer. Donc, alors, qu'est-ce qu'on veut entendre? Le message que je perçois à partir donc de ce revirement, de leur révocation, de leur auto-exclusion, parce qu'ils ont été attendus, le chef de l'État, l'autorité morale, aurait demandé au secrétaire général de la majorité présidentielle de les entendre, qu'au niveau de la famille, on trouve des solutions, mais on va aller plus vite, même sans suivre la procédure normale en matière de discipline. Ils devraient quand même être entendus, présenter leurs explications, mais non. Vous savez, la famille politique du chef de l'État a toujours était caractérisé de l'indolence, de l'indolence. Hein, vous avez vu depuis que les concertations nationales avaient été organisées. Et quand est-ce que le chef a mis en marche la plus importante des recommandations, celle du gouvernement de cohésion nationale? C'est pratiquement une année après. Donc on connaît le chef, quelqu'un qui agit lentement, avec beaucoup de patience, mais là c'est allé très vite. La lettre déposée, et l'information parue dans la presse, et le lendemain, ils sont exclus, on demande aux autres de quitter. C'est que maintenant le message que moi je perçois à partir de là, c'est quoi? C'est que le message qui voudrait être entendu dans le dialogue, dans tout ce qui s'est dit, c'est que Kabila, nanu totondiote, Kabila, postanayo et silite, il n'y a pas de stock de compétences en RDC comme ailleurs, et en conséquence, nous avons besoin du chef de l'État, qu'il puisse, toi Moulombele, s'entendre. Voilà le message.
Vous attaquez pratiquement au propos du.
Non, je ne m'attaque pas. Parce que ce message-là est passé. C'est un membre du gouvernement qui l'a tenu. Il est tenu. En fait, par les droits de réserve, il est tenu aux droits de réserve et de discrétion. On ne peut pas voir un membre du gouvernement faire le tour du monde, tenir des propos qui frisent la violation de la Constitution.
Et donc, pour vous, le G7 a totalement raison d'être écarté, de s'écarter de la famille politique.
Je ne voudrais pas lui donner raison ou tort, mais mon problème, c'est que c'est de sceller à partir de ce comportement le message que la famille politique du chef de l'État donne.
Le reste,
c'est que nous voulons
ce que
entendre, c'est le changement de la Constitution, permettre au chef de l'État, dans les 10 ans, que nous n'ayons que lui. Parce qu'il n'y a pas le stock de compétences en RDC.
On va voir ce que pense Solange Luchikou à Bukavu. Alors Solange, est-ce que à Bukavu on a compris le revirement politique de G7?
Ah oui, je pense que ceux qui ne connaissent pas Bukavu penseraient que Bukavu c'est une petite ville où les gens ne réfléchissent pas. Mais je pense que beaucoup de changements viennent d'ici. Et donc, à Bukavu, vraiment la majorité des gens pensent que les G7, c'est maintenant la vraie opposition à la République démocratique du Congo. Donc, c'est des gens qui se sont battus de l'intérieur. Ils n'ont pas attendu d'être mis dehors pour dire non au non-respect des valeurs républicaines.
Mais ils ont attendu quand même d'être démis de leur fonction.
Pardon?
Mais ils ont attendu quand même d'être démis de leur fonction.
Mais ils se sont battus de l'intérieur, donc ils pensaient pouvoir changer des choses à partir de l'intérieur. Et c'est ça le mérite qu'ils ont. Et donc les G7, c'est vraiment l'expectative ici au site Kivu. Les sentiments pourraient être partagés, mais nombreux sont ceux qui louent cette initiative du G7. Pour une fois, la politique du ventre n'a pas les défis sur les rationnels. Alors, il est vrai, disent les Bukaviens, que c'est cette troisième voie qui manquait jusqu'ici. Entre le radicalisme d'une opposition incapable de se fédérer et une majorité en tête de vitesse, on salue ce courage du G7. Mais une chose est vraie, Pierre Lumbi continue à garder son influence au sud Kivu en tant que l'un des initiateurs de la société civile qui est présente aujourd'hui à travers le pays. Et aujourd'hui, sa voix serait encore écoutée au sein de la société civile du site Kivu. Ne parlons pas du BMSR, son parti politique. C'est donc un déséquilibre pour la majorité présidentielle au site Kivu, alors que les tronçons routiers réhabilités dans la ville redonnaient déjà du poil de la bête à la majorité présidentielle ici.
Et donc, à vous entendre, c'est comme si la majorité au pouvoir est en train d'être fragilisée. C'est ce que je suis en train de bien comprendre?
Oui, elle est totalement fragilisée. Totalement fragilisée. Si elle peut perdre des personnalités comme Pierre Lumbi, en tout cas dans l'est du Congo, je ne sais pas si vous pouvez trouver trois personnes à la fois qui vous disent que cette majorité n'est pas fragilisée. Parce que du coup, avec un petit calcul, on se rend compte que cette majorité perd beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Et donc, vous voyez ce que ça représente par rapport aux décisions qui peuvent être prises.
Et c'est là que je voulais justement revenir à Marcel Ngoï. Est-ce que finalement, les calculs au niveau des deux chambres du Parlement ne risquent pas d'être inversés en faveur de l'opposition?
Bon, dire en faveur de l'opposition, c'est aller...
Parce que visiblement, comme on a entendu Solange, déjà on estime que le G7, c'est la vraie opposition. Donc ils ont déjà basculé dans l'opposition.
Bon, le problème de positionnement opposition-majorité, à ce stade, même Charles Mwando Nsimba a dit
qu'il faudra attendre la charte qui est la charte constitutive du G7
qui est en élaboration
pour pouvoir se déterminer. Mais ce qui est vrai est que le G7 porte aujourd'hui les espoirs de ceux qui pensent que dans ce pays il y a encore lieu de croire en l'avenir. Donc moi, je crois que le problème posé par le G7 est un problème qui aujourd'hui on peut être considéré comme le problème fondamental de la suite des événements. Mm-hmm. Et je crois que le courage que les membres du G7 ont eu en ce moment où ils devaient faire face au président de la République qui détient entre les mains la puissance publique, les trésors, l'armée, la police, les services en général, ce n'est pas facile de se débarrasser de postes. Il y a des révocations, il y a eu des démissions, il y a des pressions qui s'en suivent. Et ce n'est pas facile de prendre le courage de dire non là où il faut dire oui. Moi, je pense que le G7 a
secoué... Mais au niveau des deux chambres du Parlement...
Le G7 a secoué le panier qui porte les abeilles. Parce que le G7 est allé poser le vrai problème. Et ce que le G7 dit a une certaine considération aujourd'hui, parce que c'est cela le vrai problème. Moi, je pense...
La même chose que l'opposition disait, mais malheureusement, il n'était pas écouté.
Je suis en train de penser qu'au lieu de procéder au nettoyage des écuries de Guias en révoquant, en blâmant, en faisant ceci, le président aurait
dû... Ou en poussant la démission.
Moi, je crois que le président aurait dû laisser les membres de sa famille s'entrechoquer par le débat. Il aurait dû arbitrer ces débats-là. Il aurait dû favoriser un climat de confiance mutuelle en rappelant les gens du G7 autour d'une table pour discuter. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Pour rappel, le jour où ils ont été convoqués, hier, on n'a pas trouvé que les membres du bureau politique de la majorité présidentielle. Il y a eu d'autres personnalités de la majorité, certes, mais qui ne font pas partie du bureau politique. Donc, le climat ne pouvait pas favoriser... C'est le tournoi qui l'a dit, ne pouvait pas favoriser un débat de fond. Par contre, ce sont des remontrances. Moi, je crois que la vraie page de l'histoire de ce pays en ce qui concerne l'après-2016 a commencé à s'écrire aujourd'hui. Tout ce qui était prévu en 2016 a été ramené en 2015. Mm-hmm. Si bien qu'il faudra que le président de la République reprenne les choses à main. Moi, je pense qu'il doit prendre les taureaux par les cornes, ramener les choses là-bas à la terre, comme on dit, rappeler les gens et convoquer les dialogues. Tout ceci est arrivé parce que l'expectative dans laquelle nous, la classe politique est plongée, la société civile, les forces vives qui ont été consultées depuis juin, cette expectative n'a que trop duré. Faudra absolument que le président convoque finalement les dialogues, parce que les sujets évoqués par les G7 doivent faire partie du dialogue. Pourquoi ne pas convoquer le dialogue pour que les gens puissent y discuter?
D'accord, on n'a plus beaucoup de temps. Joël Kadé, vu ce climat politique, où allons-nous?
Nous allons et nous tendons vers un imbroglio défini et déterminé dans ce qui a été appelé, outre la révision constitutionnelle, l'inanition de la nation. L'inanition de la nation, la destruction de la nation, la mort de la nation, avec les improvisations, la violation de la constitution qui n'a pas pu être révisée. Donc nous avons entamé la seconde thèse de cet ouvrage que j'aime bien, l'inanition de la nation. Alors j'aimerais un peu revenir sur la question que vous avez tantôt posée à Marcel.
Rapidement, oui.
Pour vous dire que j'aurais aimé que le chef suive, par exemple, la démarche que propose mon confrère, où lui devrait rester au-dessus de la mêlée. Si réellement la volonté du dialogue était là, si la volonté du débat était là. Mais là, vous sentez que c'est une sorte du impair sans le impair. Donc, la pensée est unique. Donc, il y a des choses auxquelles on doit s'entendre. Et lorsque vous invitez les gens là, c'est comme si vous avez déjà les termes de référence sont déjà définis. Voilà ce que nous voulons entendre. Donc, votre message est déjà prédéfini. Voilà ce que nous voulons entendre. Ça, nous ne voulons pas entendre. On ne veut pas entendre qu'on parle du glissement. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit? On ne veut pas entendre qu'on touche au mandat du chef de l'État, comme lui-même n'en a pas encore parlé. Mais dans les faits et gestes. Parce que ça a commencé avec Muyambo. Quand il a dit non au troisième mandat, on lui a cherché des cheveux sur sa tête. Vano Kiboko,
qui vient d'être condamné à 3 ans de prison ferme aujourd'hui. Il a tout simplement donné un point de vue à une question posée par un journaliste dans la salle, à l'hôtel Caravia. Qu'est-ce que vous dites par rapport à l'actualité? Alors, ce que c'est, pourquoi il a été amené là-bas, ce n'était pas le troisième mandat. Il s'est opposé au troisième mandat du chef de l'État. Il a conseillé le chef de l'État la voie de la sagesse pour qu'il désigne un dauphin. On le refuse et pour cela, on l'a arrêté. Tous ceux qui se sont engagés, le docteur Mukwege et tous les autres, donc tous ceux qui ont émis un son de cloche,
qui on a refusé le documentaire,
vraiment au glissement, au dialogue qui viserait le troisième mandat ou le saut, ou le plongeon dans la 4e République, tous ceux qui ont passé autrement, donc ils se sont vus, ils ont constaté un acharnement terrible sur eux.
D'accord.
C'est là que nous comprenons pratiquement rien. Et qu'est-ce qu'on veut réellement? Est-ce que veut-on la démocratie? Veut-on le dialogue? Veut-on le débat? Ou on veut réellement entendre ce qui plaît à l'oreille? Voilà un peu ce que je puis dire à ce sujet.
D'accord. Alors, Solange Louchikou, rapidement, est-ce que la question du troisième mandat du président de la République est-elle un tabou finalement?
Mais je ne sais pas pourquoi vous pouvez poser cette question aussi longtemps que le déroulement même du débat et de tous les débats qui se passent par-ci, par-là, prouve à suffisance que c'est vraiment un tabou. La volonté du peuple n'est pas là, n'est pas dans le prolongement du troisième mandat. Et donc, la fissure qui vient de se manifester aujourd'hui au sein de la majorité présidentielle, je dirais que c'est une partie du combat gagné déjà par le peuple congolais qui ne voulait pas du tout du troisième mandat. Mais il y a lieu quand même de se poser la question de savoir si l'opposition va en profiter. Mais comme il s'agit d'un combat pour des valeurs républicaines, nous espérons que pour une fois, une frange de l'opposition, celle que moi, à partir de ce vote pop que j'ai fait partie par là dans la ville de Bukavu, pour comprendre que le G7 est vraiment la vraie opposition, il suffit seulement de se poser des questions, de savoir quelle est la forme de discorde du G7 au reste de la majorité présidentielle. Avec ça, on se rend compte que ce sont ces valeurs républicaines-là qui ont fait que les membres du G7 aient refusé d'accepter qui est la révision de la Constitution et tout le reste.
Mm-hmm.
Et donc, avec tout ce qui vient de se passer, on peut dire que dans la majorité aujourd'hui, si les élections avaient lieu, c'est un plébiscite qu'on enregistrerait. Mais ce qui encourage aussi le titre qui vous tient, c'est le discours centré sur le respect de la Constitution et des valeurs républicaines. C'est un discours, au fait, qui passe comme une lettre à la poste. Toutefois, il y a lieu de se demander si le G7 a des assises fortes pour rester pérennes. S'il ne tombe pas du jour au lendemain, ce sera positif pour le peuple.
Merci.
Mais si c'est le contraire, ce sera un malheur du peuple congolais.
Merci beaucoup. Alors nous entrons directement dans notre deuxième thème de la soirée qui concerne la rentrée parlementaire. Et la rentrée parlementaire a eu lieu dans les deux chambres congolaises. Le président du Sénat propose à la classe politique la rationalisation des prochaines élections, ce qui renvoie à la concentration des moyens disponibles sur les scrutins à délai constitutionnel incompréhensible, dont les présidentielles, les législatives et les provinciaux. Suivez.
L'année qui vient est essentiellement électorale. Elle nous impose deux contraintes politiques majeures, le financement des futures échéances électorales et la matérialisation de la décentralisation politique de l'État. À propos des futures élections, je tiens d'abord à réaffirmer en face de notre peuple la volonté non équivoque de tous les sénateurs d'aller le plus vite aux élections. Les élections étant un mode de respiration normal de tout État démocratique, aucun démocrate ne peut s'y dérouper. Tout comme il n'y a pas de raison qu'elles soient indéfiniment retardées. Les gouvernements invoquent les difficultés d'ordre financier pour répondre. Je rappelle que les besoins en la matière ont été chiffrés à un peu plus de $1 milliard pour l'organisation de tous les scrutins. Pour tout observateur averti, il n'est pas difficile de constater que ce montant constitue plus du 12e du budget national, du moins si l'on s'en tient aux prévisions budgétaires de 2015.
Et à l'Assemblée nationale, le président Obaminakou a rappelé que cette session est budgétaire et noté que ce budget sera voté dans un contexte d'échange entre acteurs politiques. Cette session sera aussi rythmée par la poursuite de la décentralisation et les perspectives des élections. Les grandes lignes de ce discours avec vous, Mimi Ngumba Mulongo.
Concernant le dialogue politique initié par le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale a fait savoir que ce rendez-vous permettra de recadrer plusieurs dossiers.
Il s'agit entre autres de la nécessité d'avoir un processus électoral apaisé, mais aussi de préserver les acquis fondamentaux que sont la paix, l'unité, la stabilité et la cohésion nationale.
Au sujet de la décentralisation, les parlementaires doivent délibérer pour une deuxième fois la loi portant création de la Caisse nationale de péréquation.
Je vous souviens pas que les deux chambres du Parlement ont adopté la loi portant création d'organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation. Cependant, la Cour constitutionnelle, saisie en application de l'article 124.3 de la Constitution, a déclaré certaines dispositions non conformes à l'article.
Et puisque la session est essentiellement budgétaire, il y a nécessité d'évaluer en amont l'exécution du budget 2014 avant l'examen du budget de l'État exercice 2016. Hormis les arriérés législatifs, un accent particulier sera mis sur le contrôle parlementaire, a rappelé Obaminakou.
Merci Mimi Ngumba pour avoir signé tous les dossiers de la tribune de ce soir. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps qui nous reste. Marcel Ngoï, quelle est votre lecture sur cette rentrée parlementaire ?
Oui, je voulais dire que cette rentrée intervient au moment où le pays est en train de subir des grandes convulsions politiques. Mais ce que je voudrais aussi dire aussi, c'est ouvrir une perspective optimiste. Je me dis que, quelle que soit la douleur d'enfantement, la beauté du nouveau-né nous fera oublier ce moment difficile. Le nouveau-né ici, c'est un état de droit. Le nouveau-né ici, c'est un état où règne la justice, la paix. Donc, les contradictions politiques sont les moteurs du développement. Moi, je crois que, loin de considérer la fracture intervenue dans la majorité, ou l'indolence, ou l'ankylose qui mine dans certains partis de l'opposition, moi, je pense que, quelque part, au bout de tout, il y a moyen d'espérer que ça pourrait aller. Alors, revenons à la rentrée parlementaire. Mmh. Au niveau du Sénat, le président du Sénat a tenu un discours qui, en quelque sorte, est la caricature de ce que le G7 a dit à propos du processus électoral, par exemple. Le président du Sénat dit que parce qu'on n'a pas de moyens, il y a des contraintes de temps, ça nous prend beaucoup d'argent, les élections. Il y a aussi le processus de décentralisation. Il ne faudra pas que le processus électoral et le processus de décentralisation puissent se télescoper. Il ne faudra pas que les deux processus puissent se neutraliser. Chacun des processus a ses exigences. Oui. Mais parce qu'on a démembré les provinces, il y a des exigences de gestion, la Cour s'est mêlée à l'affaire. Il y a un arrêt qui existe, qui subit des interprétations diverses. Quand cela ne tienne, le président du Sénat dit qu'il faut concentrer le centre des moyens au scrutin constitutionnellement contraignant. Et au président de l'Assemblée nationale, il y a eu aussi un mot important, c'est lui, c'est la perspective du dialogue.
D'accord.
Il estime que tous les sujets importants pourraient trouver des solutions au niveau du dialogue.
Alors, Joël Kadé, est-ce que vous croyez au dialogue ou aux échanges dont parle le président Obaminakou ?
Non, personnellement, je ne crois pas, parce que votre question est tellement directe. Je ne crois pas parce que s'il pouvait réussir le dialogue avec l'autre famille, en tant que chef de cette famille, du chef de l'État, dont il est l'autorité morale, il pouvait maintenir ce climat de dialogue au sein de sa famille. Vous savez, ce ne sont pas les premières crises au sein de la majorité présidentielle. Du temps de Kato Mamanké, on a assisté à des plus graves crises. Mais avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de perspicacité, que ce soit Katumba, que ce soit Philippe André Fouta, que ce soit Kouya Diallo, tous trois sont déjà partis dans l'au-delà,
c'est à leurs âmes.
Et ils ont trouvé des moyens. Vous vous rappellerez de la crise créée par Albert Fabrice Puella, Omba et un troisième député dont j'ai oublié le nom, en créant les courants réformateurs au sein de la majorité présidentielle. Vous vous souviendrez de ce qui est arrivé avec Vital Kamerhe. Donc, toutes ces crises-là ont été maîtrisées au sein de la famille politique.
Mais là, on parle des échanges ou du dialogue pour élaborer le budget de l'année prochaine.
Mais le budget de l'année prochaine, en parlant, vous sentez encore, ça ressort
en effet une crise latente entre l'Assemblée nationale dont il est le président et le Premier ministre. Parce que vous avez entendu des invectives très directes vis-à-vis du Premier ministre qui était d'ailleurs là sur place. Donc vous sentez que la famille du chef de l'État, c'est le sauve qui peut. Le Premier ministre aussi, dans ses réponses, vous sentez qu'il agit aussi en électron libre. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité fait aussi des choses. Vous sentez que c'est en électron libre. Vous sentez lui aussi le président de l'Assemblée nationale qui est en même temps secrétaire général de la majorité présidentielle. Vous sentez qu'il n'y a pas de cohésion, qu'il n'y a pas l'unité, qu'il n'y a pas l'union au sein de la famille du chef de l'État. C'est là que moi je pouvais appeler que le chef reste au-dessus de la mêlée. Et même si on peut constater au regard des 78 députés de G7 avec leurs alliés, s'ils peuvent atteindre 125 députés, qu'on constate tout simplement que je ne sais pas si la loi peut le permettre la dernière année de la législature, si vraiment la loi peut le permettre, qu'ils puissent dissoudre l'Assemblée, l'argent qui pouvait servir là. Alors, ils resteraient au-dessus de la mêlée, ils joueraient vraiment au père de la nation, ils joueraient vraiment, comme sont ces attributions que je crois l'article 73 lui donne d'assurer la continuité des services de l'État, je pense qu'ils peuvent dissoudre même les assemblées provinciales, le Sénat, et ils réorganisent les choses sur base d'un dialogue franc, sincère, où on veut entendre tout le monde, et que les gens viennent pour qu'on trouve la paix et qu'on aille vers l'enfantement dont a parlé mon confrère Marcel.
Très bien. Alors, Solange Louchikou, quelle est votre analyse sur cette rentrée parlementaire? Élection à gauche, décentralisation à droite, difficultés au sein de la majorité. Quelle est votre lecture finalement? Pensez-vous qu'on va vers une issue apaisée?
Bon, moi, je pense que c'est un problème. Hein. C'est un problème, en fait, qui met encore une fois à nu les manques de cohésion au sein de la majorité présidentielle. Et ça prouve que déjà, au sein même de cette cuisine interne qui est la majorité présidentielle, il est difficile de dialoguer. Pourtant, ça représente un petit groupe restreint. Alors, il y a lieu de se poser la question, seront-ils capables de dialoguer dans un cadre beaucoup plus élargi? C'est la réponse, je ne sais pas si vous pouvez me la donner. Mais cette question...
Ben, c'est moi qui vous la pose finalement pour que vous puissiez conclure directement.
Elle n'aura pas de majorité. Et donc, peut-être que les impositions et la discipline du parti ne pourront plus entraver les décisions des honorables avec les quelques 80 députés du G7 et autres peut-être sympathisants. Alors, je pense qu'il y a lieu de croire que désormais le débat pourrait revêtir un caractère libre et c'est peut-être une avancée qui va se manifester au sein de l'Assemblée nationale. Mais quoi qu'il en soit, le pays navigue en jupe et il faut donc une rigueur pour élever le pays.
Merci beaucoup Solange Louchikou. Simire, c'est ça aussi votre conclusion parce que nous arrivons déjà pratiquement à la fin de cette émission. Marcel Ngoï, un mot en guise de conclusion.
Oui, je voulais dire que la Commission nationale électorale indépendante est bloquée. Le calendrier qu'elle avait présenté le 12 février 2015, ce calendrier est dans l'impasse. Voilà le début même du glissement. Les gens pensent que le glissement, c'est un phénomène qui pourrait arriver à la fin 2016. Non, le glissement, c'est le déraillement de l'almanach, du chronogramme.
Vous avez les bons mots là.
Du chronogramme qui a été tracé et présenté au public. Aujourd'hui, en principe, le 24 septembre, on aurait pu commencer la campagne électorale pour la députation provinciale. Il n'y a pas eu d'appel à candidature pour les conseils communaux et les conseils de chefferie. Et on n'a pas des listes définitives qui ont été publiées pour les élections.
Et l'élection du gouverneur est déjà oubliée.
L'élection du gouverneur, des gouverneurs et vice-gouverneurs, a été renvoyée au calendrier grec. Alors, nous avons beaucoup de programmes qui ne sont pas respectés. Donc, la navigation à vue dont parle Solange est une réalité et donc le glissement a déjà commencé. D'accord. C'est qu'il faut, il faut absolument dialoguer. Parce que si on ne dialogue pas, on va vers des rixes, vers des échauffourées. Et en plus, même quand on aura fait tout cela, le dialogue deviendra absolument une nécessité.
D'accord. Donc, c'est ça, c'est votre conclusion. Il faut un dialogue. Joël Cadet, votre conclusion?
En tout cas, j'en appelle à la sagesse des uns et des autres pour qu'on évite d'aller dans l'imbroglio.
Vous
dans
prenez aussi le dialogue totale.
Tout simplement, qu'on arrête de centraliser le tout, de personnaliser le débat autour de la personne du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a réunifié ce pays, qui a pacifié le pays, qui a accepté de se mettre autour d'une table avec les autres, et que maintenant, l'œuvre qu'il a bâtie, on peut la laisser, au lieu toujours de personnaliser tout, les gens nous souffrons, les gens souffrent, les gens n'ont pas l'argent pour remettre les enfants à l'école, les gens ont faim, les gens souffrent, qu'on puisse regarder que les autres sujets d'actualité, que de tout concentrer sur la personne du président de la République, Joseph Kabila Kabange.
Merci beaucoup, Joël Kadedanga, et c'est sur cette note que la tribune de la presse de ce soir prend fin. Alain Ngoy était à la prise de son, Guy Mathé a coordonné cette édition sous la supervision de Bélé Kipelamondo. Berry Franklin Louchapka, qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Retrouvez-la sur votre site www.radioukapi.net. En attendant, excellentes conditions d'écoute sur la fréquence de la paix.